Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sporama, notre rendez-vous sportif hebdomadaire. D'ailleurs, vous en avez pris l'habitude. Élisée Mpati devant ce micro et pour m'accompagner, vous le savez bien, Lawal Dine Kosuro que je salue. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
On se rend d'abord à Dakar au Sénégal pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoué. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Direction Kinshasa en RDC pour retrouver Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, nous avons Amine Birouk du côté de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Dans les termes du débat de ce soir, la première phase des qualifications à Dakar au Sénégal de la deuxième édition de la Basketball Africa League et puis du football avec les barrages aller et retour qui délivreront les 5 tickets de l'Afrique pour la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Sporama, c'est parti. On jouait ce week-end la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poule des interclubs de la CAF. Le plateau des quarts de finale de la Ligue des Champions est presque constitué. 7 équipes sur 8 sont assurées d'y être. L'Espérance de Tunis, net vainqueur des Botswanais de Kalassi 3-0 et les Algériens du CL Belouizdad qui ont pris le meilleur sur l'étoile du Sahel 2-0 ont mis fin au suspense dans leur groupe C. Les Angolais du Petro Atlético ou encore les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont aussi assuré leur qualification. Tout comme le Raja de Casablanca qui est allé battre 2-0 l'autre club sud-africain d'Amazulu. Amine, le Maroc fait le plein, le Wydad étant déjà qualifié lors de la précédente journée.
Ils l'ont fait avec beaucoup de maîtrise contre l'équipe sud-africaine d'Amazulu. Une victoire de 2-0, une réalisation dès la 16e minute de Hamid Haddad, un deuxième but dans le dernier quart d'heure de la partie. Une équipe qui n'a pas eu l'impression de passer des moments de frayeur. Il est vrai que le changement de dispositif tactique avec un passage à une défense à trois centraux a permis d'apporter beaucoup de sécurité aux poulains de Rachid Taoussi qui prennent la tête du groupe, qui se qualifient pour les quarts de finale avec 12 points et qui vont devoir maintenant essayer de maintenir leur leadership contre l'équipe de l'Entente de Sétif lors de la dernière journée. Le Wydad, lui, a réussi le hold-up parfait, mené au score contre Sagrada Esperanza. Les Wydadis sont revenus dans la partie dans les 10 dernières minutes et ont même inscrit le but de la victoire par le Camerounais Tchoumo dans les arrêts de jeu. Un succès précieux qui leur permet de prendre la tête du classement et de voir venir avant le duel couperet pour la première place à Casablanca contre les autres Angolais Petro Atlético.
Affaire réglée aussi pour les Algériens de l'Entente de Sétif qui ont renversé les Guinéens de Oroya 3-2. Ils ont ruiné donc le dernier espoir du club de Matam. Jules, quatrième défaite en 5 matchs, c'est simplement une déception pour un projet qui peine à porter depuis près de 5 ans.
C'est le cas de le dire, Élisée. Le projet de relance de l'Oroya de Conakry, mis sur pied il y a à peine 5 ans, avait suscité un espoir légitime en Guinée et un enthousiasme général en Afrique subsaharienne, où les championnats locaux étaient condamnés à la médiocrité, tandis que la compétitivité des clubs engagés dans les joutes continentales pâlissait devant le diktat absolu des formations nord-africaines dès le stade des demi-finales. Mais des exemples de réussite comme ceux du tout-puissant Mazembe, version Katumbi, ont encouragé les promoteurs d'Oroya à reprendre les mêmes recettes, à savoir une professionnalisation plus aboutie, des investissements conséquents synonymes d'infrastructures modernes et de recrutement qualitatif, tout en s'adossant sur une formation tout azimut à la Diambar au Sénégal, orientée vers l'exportation de talents convoités. La présence régulière de l'équipe guinéenne en quart de finale des compétitions africaines de clubs a été l'aboutissement heureux de cet activisme. Mais voilà, Oroya sort dès la phase de poule, confirmant une baisse de régime probablement liée à la grisaille provoquée par les effets successifs des crises sanitaires, d'Ebola, puis de Covid, ainsi que le climat sociopolitique actuel du pays. Alors l'heure est franchement à la réflexion pour relancer et pérenniser ce rêve en péril.
Merci Jules. Le dernier ticket se jouera le 3 avril dans le groupe A entre le tenant du titre Al Ahly du Caire et les Soudanais d'Al Hilal. Cinquième journée également en Coupe de la Confédération. Et après les Égyptiens de Pyramide, premiers qualifiés il y a 15 jours, d'autres se sont ajoutés hier avant l'ultime journée. Quatre nouveaux qualifiés notamment, les Libyens d'Al Ittihad, les Sud-Africains d'Orlando Pirates, tout comme les Égyptiens d'Al Masry, ainsi que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, malgré son nul de 2-2 à l'AS Otto-Odo. Valdo, les Corbeaux marquent le pas et ratent d'assurer directement leur qualification.
Élysée, le club de la RDC s'est fait rejoindre au score à 2 reprises alors qu'il a réussi à marquer plus d'un but pour la 2e fois consécutive depuis les 2 buts de cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération. La ligne offensive de Mazembe semble retrouver ses repères, mais derrière, ils n'ont pas su préserver ces avantages qui les auraient qualifiés avant la dernière journée qui s'annonce palpitante puisque Mazembe croisera les chemins des Égyptiens d'Al Masry qui les avaient battus à l'aller 2-0. Les Corbeaux ont donc une revanche à prendre et s'offrir au passage la première place de ces groupes tenus par le club égyptien avec 10 points à 2 unités derrière et comme dans leurs habitudes, le souhait serait déterminé en tête afin de jouer les matchs retour des quarts de finale à domicile. Voilà qui oblige Franck Dumas et ses hommes de faire de ces derniers matchs celui de la victoire et de la qualification. Question de se rassurer avant les matchs à élimination directe qui auront une autre saveur.
Un beau match tout de même selon l'entraîneur du club luchois, Franck Dumas, qui a déjà son regard tourné vers la prochaine rencontre.
C'était un beau match. Chaque équipe cherchait le chaos parce que c'était l'ambiance qui voulait ça. Il n'y a pas eu de vainqueur, mais on a assisté à quelque chose d'intéressant, même de très intéressant. On va retenir ça. Ça nous arrange. Maintenant, bon, il reste encore un match. À nous de bien négocier, encore une fois.
Tout reste en revanche ouvert dans le groupe D, très serré, où toutes les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Et c'est bien parti pour la SEC d'Abidjan. Très belle victoire 3-0 face aux Tanzaniens de Simba Sport. Pour Julien Chevalier, l'entraîneur des Mimos, plus de calculs à se faire lors de la dernière journée.
Il n'y a rien qui nous arrange. Nous, on avait un match à gagner aujourd'hui qui était très important. On est leader, cette équipe grandit et on se concentrera sur la suite après. Je vous avoue que j'ai pas fait de calcul. Par rapport à ça, je sais qu'on est premier, mais je sais qu'il y aura un match très difficile à mener à Berkane.
Les Ivoiriens sont en tête du groupe avec 9 points, 2 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour et la renaissance de Berkane. Les Marocains ont été accrochés hier à Niamey par l'US Gendarmerie Nationale, score 2-2. Amine, c'est un bon nul pour le seul représentant du Royaume dans la compétition à 15 jours d'une finale contre la SEC.
Nil conquis de haute lutte in extremis dans les dernières secondes du match face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger au cours d'un match où l'arbitrage n'a pas été à la hauteur pour pouvoir freiner l'excès d'engagement des joueurs nigériens qui voulaient à tout prix remporter cette victoire qui leur permettrait de rester en lice pour la suite de la compétition. L'équipe de Berkane a ouvert le score suite à un pénalty dans le premier quart d'heure, transformé par Fehli. Puis 2 erreurs inexplicables de la défense, et ce n'est pas une nouveauté du côté de Berkane, ont permis aux Nigériens de mener au score après l'heure de jeu. Et il a fallu quasiment prendre tous les risques sur le plan offensif pour que l'équipe entraînée par Florent Ibengué puisse décrocher une extrémiste nulle qui les relance puisqu'ils sont désormais deuxièmes. Il suffirait de l'emporter face à la SEC d'Abidjan en toute fin du mois pour pouvoir terminer même en tête du groupe et ne pas être tributaire de ce qui pourrait se passer à Dar es Salaam entre Simba et l'USGN du Niger.
Avec les barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les 5 matchs aller-retour des 25 et 29 mars livreront les qualifiés du continent pour le Mondial en novembre prochain. On aura un très alléchant Égypte-Sénégal, Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, RDC-Maroc et Mali-Tunisie. Alors, Ahmedine Sy, c'est l'heure des retrouvailles entre Pharaon et Lion de la Teranga. Et Aliou Cissé a fait confiance à la quasi-totalité des champions d'Afrique avec le retour de Sabali.
Tout à fait, Élysée. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a publié une liste de 26 jours. Seuls les gardiens de but, Alfred Gomis et Sénégien, et le milieu de terrain, Joseph Lopi, blessé, plus Ibrahim Mbaye manque à l'appel. Élisée, sinon, tous les Lions qui avaient battu l'Égypte au tir au but lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont sur cette liste. À ces champions d'Afrique, il faut ajouter Youssou Sabali, le latéral droit de Betis Séville, effectue son comeback après plusieurs mois d'absence pour cause de blessure. Il y a aussi le portier Binguri Camara qui vient pallier les absences d'Alfred Govis et de Séni Dien qui sont forfaits pour cause de blessure également. Sachez que les Lions ont débuté la préparation pour cette double confrontation ce lundi et les Lions sont à Marrakech présentement, Élisée.
L'opposition Cameroun-Algérie va également retenir toutes les attentions. Jules Valentin Ngoué, Rigobert Song, très attendu et qui n'a pas retenu Bassogog ni Clinton Ndié, fera face à un Djamel Belmadi en quête de rachat avec les Fenech.
En effet, Élisée, en dehors de la qualité intemporelle de l'affiche Cameroun-Algérie, qui en plus de nous reproposer une excellence opposition de style, nous propose aussi un casting de rêve, c'est plus sur le banc de touche que réside la problématique, voire la dramatique de la rencontre. Côté camerounais, le guerrier Rigobert Song a en grande partie été appelé pour transmettre à ses joueurs la culture de la gagne qu'il symbolise. Surtout que ceux-ci sont pour une fois en position d'outsider. Ils se doivent d'exploiter à fond leur qualité physique, la solidarité et l'opiniâtreté qu'on leur connaît pour enrayer la belle mécanique algérienne avant de placer l'estocade, comme la supposée petite équipe équato-guinéenne l'avait fait il y a à peine 2 mois avec un effectif pourtant moins outillé. Par contre, Rigobert doit rassurer en matière de coaching car il y a 180 minutes à jouer en 2 temps et cela est une autre paire de manches. Quant au stratège Belmadi, c'est tout simplement sa tête qu'il joue. Pour lui, ça passe ou ça casse, car il coach en réalité l'équipe la plus exportable en ce moment hors du continent, dont l'échec lui est interdit. En fait, la qualification se jouera au mental, là l'avantage est camerounais, ou à la qualité des coups de pied arrêtés, et là l'avantage est algérien. Le résultat du match aller sera déterminant.
Un autre sélectionneur attendu également, Faïd Ali Lodic, après une CAN décevante avec les Lions de l'Atlas. Amin Birouk, une dernière étape avant le mondial, toujours sans Hakim Ziyech, malgré l'intervention de la fédération.
On ne peut pas parler de déception forcément pour le Maroc après son élimination en quart de finale. Évidemment, de nombreuses critiques ont été suscitées par la gestion du match face à l'Égypte et puis par le rebond a posteriori des déclarations du sélectionneur national qui est resté très intransigeant. Il y a eu quelques pourparlers de bons offices pour essayer de ramener dans le giron de l'équipe nationale Mazraoui et Ziyech et visiblement le fil a été rompu, point d'interrogation définitivement ou provisoirement. Ce qui est certain, c'est que Vaïd a remanié son staff technique avec la mise à l'écart de Mustapha Hadji et va visiblement affronter seul la vague ou la tempête congolaise dans une double confrontation à qui tout double. Il a fait confiance au groupe qui a été à la CAN. On ne change pas une équipe qui a performé. On met sur la stabilité du côté marocain et surtout, visiblement, l'envie de remobiliser les troupes, de remobiliser l'opinion publique autour du projet d'une 6e qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe du Maroc va arriver mardi après-midi à Kinshasa. Elle y restera pendant 3 jours avec l'obligation de s'adapter aux conditions climatiques, à l'ambiance qui régnera du côté de la ville quinoise. Et puis, sans oublier les conditions du jeu du stade des Martyrs avec notamment le gazon synthétique.
Le sélectionneur argentin Eto'o Cooper est également sous pression. Valdo, puisque les Léopards attendent une qualification pour un mondial depuis 1974, la pression monte à Kinshasa.
Effectivement, Élisée, unanimement, les Congolais ne jurent que par cette qualification qui leur échappe depuis 48 ans. À 5 jours de ces face-à-face, le pays des Léopards se mobilise comme jamais auparavant. La sensibilisation est tous azimuts, avec notamment une chanson enregistrée par les stars de la musique congolaise, Fimou ou Chicote. C'est le titre. La RDC veut donc chicoter les Maroc et signer enfin son grand retour lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. À retrouver le Maroc en dernier rempart comme ce fut le cas avant le Mondial 74, ce n'est pas un hasard. Nombreux sont ceux Congolais qui estime que les Léopards sont capables de réécrire l'histoire. L'impatience de prendre connaissance des 28 Léopards convoqués par Cooper avait fait monter la température d'un cran, chose qui a été faite depuis samedi. Et pas trop de réactions sur cette liste qui semble mettre tout le monde d'accord, avec notamment la présence tant attendue de Meshak Elia. Reste plus qu'à espérer que l'issue de cette double confrontation fera de la RDC mondialiste.
Les matchs des entraîneurs, on pourra le dire, Lawal. Mohamed Magasouba, le sélectionneur du Mali maintenu, mais encadré après son échec à la CAN, retrouve encore la Tunisie, mais sans son sélectionneur mondial Kebayeur limogé. Le duel des aigles promet.
Oui, le duel promet, et que l'on ait débarqué ou non les entraîneurs, ils ont déjà un groupe sur lequel ils peuvent compter. Le nouvel entraîneur tunisien ne fera qu'apporter juste une petite touche à ce qui existe. Et l'essentiel pour les uns, c'est véritablement avoir le gain de cette rencontre, et pour les autres, ne pas perdre. Donc, les entraîneurs vont livrer une bataille tactique, technico-tactique. Si le Mali se qualifiait, ça fera comme une consolation.
Ce sera d'ailleurs une première.
Oui, une première pour le Mali. Mais les autres affiches, c'est des finales de CAN, et véritablement, ces deux journées vont permettre d'avoir du beau football sur le continent Élysée.
Merci Lawal, quatre belles affiches qui nous attendent donc. On revient à vous Jules, le classique Ghana-Nigeria marquera aussi ses barrages après le fiasco des deux équipes à la dernière CAN.
Là Élysée, nous parlons du match piège parfait, surtout pour le Nigeria. La démonstration de puissance des Super Eagles du Nigeria, en dépit de leur défaite accidentelle contre la Tunisie en huitième de finale lors de la dernière CAN, comparée à la prestation quelconque d'une génération ghanéenne en fin de parcours, met nettement le Nigeria en position de favori pour la double rencontre de la semaine. Mais attention, un classique reste un classique, surtout lorsqu'on se penche sur son histoire. Déjà d'une manière générale, l'histoire des deux pays est marquée par une vieille rivalité qui date de la coloniale, une période où l'avantage était au Ghana, avant que celui-ci ne cède sous le poids de la démographie, du dynamisme et de l'économie nigériane. Désormais, s'il y a un domaine où les Ghanéens se sentent encore à leur avantage, c'est celui du football, où ils mènent encore par 4 victoires en CAN contre 3 pour le rival. De même, malgré le rang actuel du Nigeria en matière de football, les derbys entre les deux pays sont équilibrés, le Ghana dévoilant même un certain avantage psychologique. Pour tout dire, en 2022, l'avantage sur le papier est pour le Nigeria, mais attention, à la logique des derbys et des classiques, il manque souvent de logique.
Les matchs aller sont donc prévus vendredi prochain et le retour 4 jours plus tard. Avec la Basketball Africa League. Et on connaît les 4 clubs de la conférence Sahara qualifiés pour les playoffs de la 2e édition de la compétition. Dans l'ordre, le Rwanda Energy Group, l'US Monasti de la Tunisie, l'AS Salé du Maroc et le SLAC de la Guinée. Valdo, l'attraction, ce sont les Rwandais d'Energy Group qui finissent même en tête devant les intraitables Tunisiens de l'US Monasti qu'ils ont battus.
Évidemment, Élysée, Reg a fait sensation durant cette conférence des Sahara. Le club rwandais a été non seulement la révélation de cette conférence, mieux, il termine en tête devant des gros calibres simplement historiques. Au terme de cette étape, il faudra maintenant assurer à domicile lors de la phase finale. Sortir une telle performance loin de sa base annonce de très bonnes choses, espérant qu'une fois à domicile, ils vont élever le niveau. Question de rester sur la même dynamique et faire douter les favoris, ce qui pourra être possible avec la ferveur de leur public qu'ils vont retrouver. Il y a lieu de rester bien vigilant et suivre pas à pas les parcours de cette formation. Cette performance des REC Rwanda et Energy Group est le résultat d'un travail acharné, puisque le club a su réunir des éléments qui ont répondu positivement, notamment les Congolais Pichu Kambui, qui a décliné la sélection nationale de la RDC lors de la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, et il a privilégié sa signature au sein de cette formation qu'il faut désormais prendre au sérieux.
que ce fut dur pour les Marocains de la SALE qui ont dû batailler fort avant d'écarter les Sénégalais de Dakar University Club. Amine, que de frayeur pour avoir la qualification durant cette ultime rencontre.
Deux défaites pour une seule victoire, l'équipe de Salé n'avait plus droit à l'erreur. Elle a réussi le pari de remporter ses deux derniers matchs, et notamment la confrontation face à l'équipe sénégalaise de Dakar University Club. Le métier des Marocains prévalu, le coaching aussi de l'Australien Liz Miles, réputée technicienne du basketball australienne qui a pris en main le club de Salé quelques semaines avant la compétition et qui a pu redonner un esprit compétitif à un groupe vieillissant. La présence de l'Américain Scoglin, qui avait déjà été recruté pour la première édition de l'Afroleague, a été pour beaucoup dans le rendement offensif d'une équipe qui a su se bonifier au cours des matchs. Et les petites erreurs, les petites scories de gestion qui ont provoqué les deux défaites face au club rwandais et à l'AS Monastir de Tunisie ont été gommées lors du Money Time, notamment face à l'équipe sénégalaise. Maintenant, il va falloir que Salé se concentre sur le prochain objectif, à savoir l'édition de l'Afroleague qui aura lieu à Kigali au mois de mai prochain.
La déception est grande en revanche côté Duc qui aura cru jusqu'à la fin. Mais à Médine, les étudiants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes à l'issue d'un tournoi où il leur a manqué de régularité.
Oui, Élisée, la déception est la chose la bien partagée car avec une seule victoire pour 4 défaites, un bilan trop maigrant pour décrocher une qualification. D'ailleurs, le Duc occupe la place de lanterne rouge de cette compétition. J'avoue, Élisée, que je suis déçu par le Duc, par le niveau qui n'a pas été à la hauteur, déçu par la prestation des cadres comme Tierno Ibrahimania qui a été élu roi du basket sénégalais cette saison, mais aussi déçu par la performance des renforts qui n'ont pas été à la hauteur. Je pense que la marche était trop haute pour cette équipe du Dakar University Club qui a manqué de régularité, Élisée.
Ils sont donc 6 clubs qui se sont affrontés dans cette conférence Sahara du 5 au 15 mars à la Dakar Arena. Au total, 15 matchs disputés, des rencontres de haut niveau selon le président de la balle, Amadou Gallo Fall, satisfait de cette première qualification.
Une bonne entrée au début pour notre saison 2 ici à Dakar Arena. C'est vrai que l'édifice est vraiment de standard, comme ce qu'on a vu à Kigali, avec des matchs très relevés ici. D'abord, c'est un constat. On a vu que par rapport à la dernière, on constate déjà une amélioration au terme du niveau d'organisation des équipes. Puis les équipes sont venues mieux préparées. On tire les leçons aussi parce qu'il y a toujours beaucoup mieux à faire.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, au micro de Seydina Abba Gueye, notre correspondant à Dakar. La seconde phase des qualifications, celle de la conférence Nil, aura lieu du 9 au 19 avril prochain au Caire en Égypte. Alors, Lawal, la touche de la NBA se fait ressentir.
Oui, Élisée, il n'y a que la NBA qui puisse organiser une compétition de cette envergure-là en Afrique. On sait que le basket professionnel n'existe que on va le dire comme ça, n'existe qu'aux États-Unis et ils ont le secret, ils ont la magie d'organiser ces grandes compétitions et réussir déjà la première édition, c'était un challenge, ils l'ont réussi et aujourd'hui, s'ils ont créé la conférence Nil et la conférence Sahara et que pour la conférence Sahara, ça s'est passé comme sur des roulettes. On croit que le génie américain est en train de faire des émules et c'est pour le bonheur des basketteurs africains.
Et cette compétition est en train de prendre une autre dimension.
Oui, c'est devenu une compétition planétaire. Et aujourd'hui, on voit que la touche professionnelle qui est mise fait que, fondamentalement, le basket a commencé par rayonner davantage sur le continent. Et ça, c'est pour le bonheur des férus de cette compétition, la balle au panier. Et surtout, c'est pour l'éclosion de nouveaux talents, parce que à travers cette compétition, les enfants vont commencer par, fondamentalement, s'intéresser à cette discipline. Et ça fera que des émules. Et c'est déjà bien pour la vie de la Confédération africaine de basket.
Hey, merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
C'est la fin de l'émission. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com.